Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Cantot-Sperber. Georges Pompidou, la politique et les hommes. Décision et jugement moraux, avec Éric Roussel. Le nom de Georges Pompidou est lié aux dernières années des Trente Glorieuses, qui s'achevèrent avec le premier choc pétrolier consécutif à la guerre du Kippour. Georges Pompidou était un président d'origine populaire, pur produit de la méritocratie française, homme de goût, esprit original, et qui incarna l'entrée de la France dans la modernité industrielle et artistique. C'était aussi un admirable analyste de la situation politique. Une publication récente dont vous avez eu la responsabilité, Éric Roussel, avec Alain Pompidou. C'est à ce titre que je dois vous exprimer toute notre reconnaissance d'être venu à cet entretien. Georges Pompidou, Lettres, Notes et Portraits, 1928-1974, aux éditions Robert Laffont, permettent d'apprécier la richesse d'analyse, la précision de pensée et également le caractère assez exceptionnel de la personnalité. Donc, merci beaucoup de rendre ces documents accessibles au public. C'est de cette publication et de Georges Pompidou, un peu moins connu du grand public, que nous allons parler. Donc, il s'agit de lettres, de notes et de portraits privés et inédits, qui, à côté donc, des archives, des interventions officielles qui, elles, existent, ont été consignées et sont accessibles aux chercheurs, et à côté des archives de la famille Pompidou, enfin de Georges Pompidou, qui sont aux archives nationales, j'imagine.
Oui, alors ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que l'ensemble des papiers qui ont donné naissance à ce livre, tout cela a été déposé récemment aux archives nationales et sera prochainement accessible aux historiens. L'idée de base du livre a été de faire un livre différent de celui de ceux qui sont faits habituellement sur des hommes politiques. Il faut dire que nous avons eu la chance de disposer au départ d'une correspondance tout à fait étonnante, qui est la correspondance de Georges Pompidou avec un inconnu qui s'appelait Robert Pujol, qui était enseignant toute sa vie et qui était son meilleur ami.
Et qu'il avait connu dès le lycée à Albi.
La correspondance commence en 1928, donc Georges Pompidou avait 17 ans, et elle s'est poursuivie avec quelquefois des interruptions jusqu'à sa mort. Et donc on a là vraiment un document, je crois, tout à fait exceptionnel, qui donne de Pompidou une autre vision. Et c'est on découvre vraiment l'homme privé, enfin la façon dont il a vécu, de façon au fond intime, tout son parcours, les événements, et ça n'a rien d'impersonnel, c'est quelque chose vraiment de tout à fait original.
Mais surtout ses ambitions initiales, ses incertitudes aussi, la difficulté à comprendre ce qui se passe dans certaines situations, c'est véritablement le récit d'une personnalité qui se construit, c'est extraordinaire.
Oui. C'est une personnalité qui se construit et un destin qui s'élabore, mais qui n'a pas été imaginé au départ. C'est ça l'originalité de Pompidou par rapport aux autres présidents de la République. C'est pas quelqu'un qui, depuis sa jeunesse, s'était fixé pour but de devenir président de la République.
Non, assurément pas. Mais d'ailleurs, son entrée en politique, à proprement parler, est relativement tardive. Mais une autre correspondance fait le continuum de la vie, c'est celle avec René Brouillet.
Oui, alors celle de René Brouillet prend le relais, en quelque sorte, de celle de Pujol. C'est une correspondance un peu différente, qui n'a pas exactement, c'est pas exactement le même registre. C'est plus, évidemment, plus politique, mais c'est également aussi assez personnel et intime.
C'est-à-dire, il ne s'appelle plus mon vieux, il ne parle pas de, tous ces émois de jeune homme et d'homme mûr aussi, comme il en parle très librement avec Robert Pujol. Alors revenons sur les grandes étapes de la vie, puisque vous disiez que rien ne le prédestinait à la politique et qu'il n'a envisagé en fait qu'assez tardivement pour lui-même, sans parler de devenir président de la République. Il est né dans un milieu très marqué culturellement et politiquement, très modeste, mais avec un père qui avait un engagement politique déjà très affirmé.
C'est un milieu vraiment typique de la Troisième République, effectivement avec un père qui est enseignant, qui est socialiste. Un socialiste assez modéré, en fait.
À la mode du Sud-Ouest.
À la mode du Sud-Ouest, voilà, qui est peut-être plus proche des radicaux que des socialistes purs et durs. Mais il n'empêche que cette empreinte est très profonde sur Georges Pompidou et elle détermine ses choix quand il est au début de sa vie. Alors on apprend quelque chose de tout à fait singulier dans cette correspondance avec Robert Pujol, c'est-à-dire qu'à un moment, Georges Pompidou a été trotskiste, puisqu'il fait état d'une adhésion à une organisation secrète, d'ailleurs qui est tellement secrète que nous n'avons pas retrouvé la trace, mais dont la dénomination, le Front Unique, a clairement une connotation trotskiste. Oui. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit la biographie de Georges Pompidou il y a une trentaine d'années, j'avais rencontré Pierre Mallès-France. Et Pierre Mallès-France m'avait dit qu'il avait connu Georges Pompidou au sein de la Ligue d'Action Universitaire Républicaine Socialiste dont il était le président et dont Pompidou était membre. Et Mallès m'avait dit, on ne sommes pas beaucoup fréquentés parce que Pompidou était à l'époque un socialiste remuant, moi j'étais radical, et il était nettement à ma gauche.
Bon, après quoi, c'est le parcours du très bon élève que ses qualités intellectuelles distinguent très rapidement de ses camarades, les classes préparatoires à Toulouse, au lycée Louis-le-Grand, intégration à l'ENS, d'ailleurs les lettres, après deux tentatives, mais les lettres à Robert Pujol sur les différentes étapes de ce parcours d'épreuve sont vraiment très, très drôles et très, très émouvantes. La rencontre avec celle qui deviendra sa femme, Claude Pompidou, et il commence une vie de professeur de lycée, ce qui est dans les années 30, ce qui était le sort de beaucoup de normaliens agrégés.
Oui, il commence cette carrière au fond sans beaucoup de. Il a été un bon professeur, mais enfin il n'avait pas vraiment la vocation. Et on voit d'ailleurs qu'il a hésité. Parce qu'il y a une lettre dans laquelle Georges Pompidou dit à Robert Pujol qui se demande s'il ne va pas présenter le concours de l'inspection des finances. Et il faut dire d'ailleurs que, parallèlement à l'école normale, il a suivi les cours de l'école libre des sciences politiques. Donc ce qui conduit à penser qu'il avait une autre idée. Il est probable, en clair, que si l'école nationale d'administration avait existé, il se serait présenté. On a l'impression qu'il a eu du mal à trouver la porte d'entrée dans la société. Et c'est d'ailleurs, ça montre bien toute la distance qui sépare la société actuelle de la société d'avant-guerre, qui était quand même beaucoup plus structurée socialement, et où quelqu'un comme Georges Pompidou, qui était issu d'un milieu relativement modeste, avait du mal à trouver la porte d'entrée, ce qui serait certainement plus le cas aujourd'hui.
D'ailleurs, avec beaucoup de cynisme, il parle de la stratégie de mariage de ses condisciples, oui, compris de la rue d'Ulm, trouver une riche héritière. Parce que,
avec de l'humour, évidemment.
Bien sûr, oui, mais comme toutes les remarques qui portent, il y a quand même une petite parcelle de vérité. Donc, parce que lui s'en dissocie totalement. Donc, il est professeur de lycée à Marseille, ensuite au lycée, il est professeur au lycée Henri IV. Mais alors, comment se retrouve-t-il chef de cabinet du général de Gaulle, ou lié au général de Gaulle, en tout cas, avec des fonctions importantes à ses côtés? Alors qu'il ne s'est pas engagé pendant la guerre. Il s'est bien comporté, il a aidé comme il a pu aider, mais il ne s'est pas engagé dans la guerre.
Non, il ne s'est pas engagé. Il faut dire que c'était le contraire d'un homme d'aventure, donc probablement, là encore, il a certainement pas trouvé spontanément la porte d'entrée. Comme il avait un certain profil, il est probable qu'on ne s'est pas adressé à lui. Mais ce qui permet de comprendre en profondeur sa rencontre avec De Gaulle, son adhésion, c'est l'évolution qu'il a eue avant la guerre, l'évolution politique, et dont on voit le reflet dans ses papiers. On voit très bien que à partir du socialisme de sa jeunesse, il a beaucoup évolué. Il a été assez déçu, enfin même très déçu par la classe politique avant la guerre. Et donc, on a au fond l'impression, confuse, qu'il attendait quelque chose, quelqu'un plus exactement, Et ce quelqu'un, bah, il va s'appeler De Gaulle. Et là, c'est vrai qu'à la Libération, il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il remarque que son ami Brouillet devient le proche collaborateur du général à ce moment-là. Et il lui écrit, en lui disant d'ailleurs, sur un mode très, très modeste, en lui disant qu'il a envie de rendre service, qu'il a peut-être certaines qualités. Et donc il propose ses services, tout simplement. Donc il va entrer au cabinet du général dès la Libération, à un poste oui, assez modeste. Mais ses qualités seront remarquées rapidement. Et très vite, c'est comme ça qu'il va devenir l'homme de confiance du général.
Et très vite, donc comme vous le disiez, très grande admiration, bien qu'il l'ait découvert, le général de Gaulle, tardivement. Il n'a pas été particulièrement sensible à l'appel du 18 juin.
Non,
il le découvre en 1944, au moment où se nouent les situations difficiles avec les Américains. Et donc un mélange de très grande admiration, mais aussi une familiarité pleine de compréhension et d'empathie. Alors dans ces lettres, dont je recommande vivement la lecture, il est question du grand Charles, qu'on n'a pas revu depuis son voyage en Vendée ou des choses comme ça. Et puis toutes sortes de dénominations extrêmement affectueuses, oui, un peu dans l'esprit potage d'ailleurs.
Oui, il y a de l'admiration, ça c'est sûr, une adhésion au principe du directeur de l'action de Gaulle, ça c'est évident. Et vous l'avez dit, il y a aussi de l'affection. Et il faut insister là-dessus parce que ça explique, à mon avis, la suite de le rapport. Il y avait, lorsque le destin les a éloignés, ce côté-là a beaucoup compté.
En tout cas, très vite, il comprend, enfin, dans cette période trouble de l'après-guerre, 46-47, que la solution pour le général de Gaulle n'est pas de jouer le jeu parlementaire, mais de se tenir à l'écart et d'attendre de voir comment les événements évoluent.
Oui, tout à fait.
Ça, il recommandera cette ligne contre tous les proches du général.
Oui, il est tout à fait... C'est-à-dire qu'il comprend très bien ce que représente le général, le symbole qu'il est. Et il pense effectivement qu'il faut le préserver, parce que c'est une sorte de capitale pour la France, quoi, finalement. Ça ne veut pas dire qu'il approuve absolument toujours la ligne politique du général. Par exemple, on voit que c'est le reflet de son tempérament, qu'il est plus souple. Il était d'ailleurs pas le seul dans ce cas. Par exemple, quelqu'un comme Jacques Soustelle était aussi, même Jacques Faucard était, par exemple, désapprouvé. L'attitude générale au moment de la... Enfin, c'est une histoire un peu complexe, des apparentements. Donc, quand le général a décidé de se tenir vraiment complètement à l'écart de la vie parlementaire, un certain nombre de ses proches, dont Georges Pompidou, ont pensé qu'il faisait peut-être une erreur, que s'il avait suivi cette voie parlementaire, bah, il aurait peut-être finalement réussi par ce biais à revenir au pouvoir plus vite. Mais cette différence d'appréciation ne remet absolument pas en cause l'admiration qu'il a pour le général. Mais on sent bien qu'à partir d'un certain moment, c'est-à-dire à partir de l'échec du RPF au début des années 50, il sert le général avec un grand désintéressement, mais sans croire vraiment à son retour au pouvoir.
Et pourtant, enfin, en tout cas, 18 avril 47, lettre...
À 47, oui.
Oui, mais, c'est ça. Oui, c'était mais, un petit peu avant. Lettre à René Brouillet. Tout ce contre quoi nous avons lutté pendant 18 mois au cabinet l'emporte. Et le seul espoir est que le retour se passe dans des conditions d'unanimité. Le retour du général. Extrême gauche mise à part. Tel que le RPF soit oublié et que le général puisse choisir ses collaborateurs partout. Et non dans son petit cercle. Car le retour ne fait que peu de doutes pour moi.
Oui,
c'est
oui,
quand même étonnant d'écrire ça en 1947.
Oui, oui, tout à fait. Mais on voit aussi la distance qu'a Georges Pompidou vis-à-vis du RPF. Le RPF était une sorte de conglomérat avec des gens venus un peu de tous les bords. Bon, c'était d'ailleurs la logique de ce rassemblement. Mais aussi, il faut le dire, un certain nombre de gens qui étaient un peu des aventuriers. Et évidemment, ce n'était pas du tout la tasse de thé, disons, de Georges Pompidou. Et puis, il y avait aussi un côté assez droitier qui n'était pas non plus son... Il pensait que Georges Pompidou pensait que c'était une erreur pour le général de se mettre sur un créneau aussi marqué.
Alors, à ce moment-là, il change de vie d'une certaine manière. Il commence un tout autre domaine d'activité. Il entre dans un tout autre domaine d'activité.
Tout à fait. Donc, il devient le collaborateur du général. au départ du général de Gaulle en janvier 1946, il va devenir membre du Conseil d'État, il est nommé maître des requêtes au Conseil d'État, ça fait partie du testament du général. Le général a exprimé le vœu qu'un certain nombre de ses collaborateurs aient des postes, c'est comme ça que Georges Pompidou donc, va se retrouver au Conseil d'État, alors qu'il n'a pas de formation vraiment juridique, il a suivi l'école des sciences politiques, mais enfin disons qu'il a quelques rudiments, mais sa grande intelligence va lui permettre d'être très rapidement opérationnel. Et tout en assumant ses fonctions au Conseil d'État, et puis des fonctions aussi au commissariat au tourisme, il reste le collaborateur très très proche du général, puisque même à un moment, il est son directeur de cabinet, son plus proche collaborateur. Et donc ça dure jusqu'au début des années 50, jusqu'au moment finalement de l'échec du RPF. Et alors là, Georges Pompidou évidemment a besoin ressent le besoin de voler de ses propres ailes. Et c'est comme ça qu'il va entrer à la Banque Rothschild. Mais tout en restant très proche du général, en le voyant très souvent et en assumant pour lui certaines missions. Par exemple, c'est lui qui a négocié avec Plomb le contrat pour les mémoires de guerre du général.
Et les lettres qu'il écrit au général à ce moment-là sont d'une très grande liberté de ton quand il explique ce besoin d'autonomie, ce besoin de faire sa carrière, de songer à construire une carrière à côté de ce lien avec le général. C'est l'expression d'une liberté, la position d'une personnalité sans aucun lien d'allégeance ou d'inféodation. On est très très loin d'une quelconque perspective de place ou de grande carrière qui pourrait se faire en favorisant la carrière générale. À ce moment-là, il songe à sa propre vie. Et d'ailleurs, ses goûts changent. Ses goûts s'affirment. Son style de vie s'affirme. Et commence à constituer ce portrait, au fond, très extrêmement atypique d'un Premier ministre qui se rend en Porsche, en tout cas quand il était dans les années qui ont précédé, très amateur d'art contemporain, évoluant dans des milieux où, en général, les hommes politiques jusque-là n'évoluaient pas du tout.
Oui, c'est très frappant d'ailleurs quand on voit ça avec le recul que nous avons aujourd'hui. On voit que, par rapport à la classe politique de l'époque, Georges Pompidou apparaît comme le premier homme politique moderne. Son style change tout à fait par rapport. Il représente une sorte de transition, au fond, entre la Troisième République et la Cinquième. Mais il y a un côté moderne chez lui qui tranche avec le style des hommes politiques de son époque, enfin de la Quatrième.
Oui, qui annonce les hommes politiques d'aujourd'hui, mais avec la culture peut-être. Voilà. Les références littéraires en plus, voilà. Et la sûreté du style. Là, dont on trouve, il est vrai, peu d'équivalent aujourd'hui. Mais en même temps, ce qui est extrêmement frappant dans sa personnalité, puisqu'il s'exprime beaucoup au travers de ses lettres, c'est au fond une forme d'empathie, et même avec ses adversaires. C'est assez curieux. Il s'intéresse aux motivations des personnes, à ce qui leur fait défendre des points de vue parfois totalement opposés des siens et qu'il désapprouve. On a une impression, au fond, de conversation libérale, de respect de cette diversité humaine qu'il a constamment côtoyée, évidemment, dans ses fonctions politiques.
Oui, mais il est resté quelque chose quand même de son passage à l'école normale. Et vous avez tout à fait raison. Mais Georges Pompidou est quelqu'un de très qui est pétri de paradoxes, de contradictions. Même il faut trancher le mot. Il faut l'accepter comme ça. C'est ce qui fait sa richesse. C'est quelqu'un qui dans l'action politique pouvait être assez déterminé, assez dur. Évidemment qu'il a été aussi à l'école du général, qui n'était pas non plus un ange. Mais c'est quelqu'un qui avait conserver vis-à-vis des hommes, oui, à la fois une grande curiosité et un souci aussi de compréhension. Vous avez tout à fait raison.
Et ça se manifeste très clairement dans les textes écrits pendant la terrible période de 68, cette sorte, au fond, de compréhension de la jeunesse. On dit, mais la société a changé, nous n'en sommes pas rendus compte, j'ai eu tort de ne pas voir ce qui était en train de se passer, mais nous ne pouvons pas écarter ces aspirations de la jeunesse, et il recommandera une attitude de compréhension et d'apaisement très fort.
Oui, il a sans doute été l'homme politique à cette époque qui a le mieux compris finalement ce qui se passait en 68 et qui l'a mieux compris en profondeur et qui en a tiré les conséquences politiques. Il est vrai qu'il était un poste vraiment très exposé. Il faut dire qu'il a mieux compris les choses que le général, qui était d'une autre génération. Et le général a dit très juste, ça traduit bien sa pensée, la situation était pour moi insaisissable. Tandis que Georges Pompidou, lui, a eu l'intuition d'un monde nouveau, dont il n'approuvait d'ailleurs pas absolument toujours l'orientation. Il y a une histoire, par exemple, qui montre bien son état d'esprit. Il avait l'habitude d'organiser à Matignon, quand il était Premier ministre, des séances de cinéma avec des amis. Et c'est comme ça qu'il avait été conduit à assister à la projection de La Chinoise de Godard. Et les amis qui étaient autour de lui avaient exprimé un certain trouble. Enfin, ils étaient perplexes, disons, devant cette œuvre, un peu cette sorte d'ovni. Et Georges Pompidou leur avait dit, oui, c'est sûr que c'est quelque chose de déconcertant. Mais ça annonce probablement quelque chose dont nous n'avons pas encore vraiment l'idée. Et c'est ce qui s'est passé. Et je crois que c'est ça qui lui a permis de bien comprendre ce qu'a été mai 68. Même, encore une fois, et la suite de ses écrits le montre, et s'il n'en approuvait pas toujours l'orientation.
Et il se plonge dans la lecture de l'homme unidimensionnel de Marcuse.
Oui, il essaie de comprendre.
De comprendre. Enfin, voilà. Je ne sais pas quelle personne politique ferait ça aujourd'hui. Alors, nous allons nous centrer maintenant sur les années où il occupe une position de pouvoir très importante, comme Premier ministre du Général et ensuite comme Président de la République, comme c'est une époque plus connue. Mais je voudrais d'abord faire état tout de même d'un certain un ensemble de lieux d'étonnement. Par exemple, quand il apprend quand il comprend qu'il pourrait devenir Premier ministre, l'appartement qu'il occupe rue de Béthune depuis longtemps est à vendre à un prix dérisoire et il refuse de l'acheter.
Oui, il refuse de
pour des conditions d'éthique.
Voilà,
un Premier ministre n'acquiert pas son appartement,
oui.
Sauf s'il a de la fortune personnelle.
Voilà. C'est vrai qu'on est dans un monde tout à fait très loin de celui d'aujourd'hui.
Et un monde où ceux qui sont au pouvoir et les plus puissants vivent au fond de façon très simple. Et peut-être pas dans une grande proximité avec le peuple, parce que la télévision est beaucoup moins utilisée et la population n'a pas le sentiment de cette présence, cette omniprésence, mais en tout cas avec un mode de vie qui est beaucoup plus proche de la façon dont vivent le reste de la population.
Oui, et d'ailleurs, il me semble qu'il y a une lettre dans laquelle Georges Pompidou dit que ce qui change tout, finalement, c'est justement la télévision et le fait que tout est pour un homme politique, que la vie d'un homme politique devient de plus en plus sous le regard des autres, qu'il n'y a plus de... Plus le temps passe, plus la notion d'intimité se réduit.
Il a été aussi, il a plaidé la grâce du général Jouot.
Oui,
et comme il était favorable à la grâce pour Brasillach, comme il aurait été prêt.
Et il est intervenu aussi pour les objecteurs de conscience. C'est là où on voit ce qui était la base de sa personnalité, c'est-à-dire une compréhension. Il était d'accord avec le général sur pratiquement tous les principes de son action. Mais il apportait au gaullisme un côté peut-être plus humain, avec un souci de compréhension des situations individuelles qui lui venaient de son passé, de sa formation antérieure.
Alors, pour rétablir une vérité qui est parue en 82 et écrite dans la dernière année de sa vie, il évoque justement cette période 68. Le général ne comprend pas qu'il peut y avoir dans une France prospère cette espèce de désenchantement et de désir brutal de changement. De nos jours, le recul de la foi, la libération de la femme et le progrès scientifique réunis conduisent à une liberté de mœurs et à une négation des valeurs morales traditionnelles qui font disparaître toute entrave sans rien mettre à la place. Il est clair que pour ceux qui se donnent la peine de penser, et aussi pour une partie de la jeunesse, le matérialisme de la société d'abondance ne satisfait pas les aspirations de l'homme et ne donne pas un sens suffisant à la vie. Ça témoigne, me semble-t-il, d'une capacité de compréhension des motivations de ceux qui sont en face de lui et auxquels il va s'opposer, enfin, en tout cas pour ce qu'il jugera être des débordements, mais qui est l'expression d'une forme de respect aussi.
Et d'ailleurs, ça explique pourquoi il se montrera très très attentif à ce qu'il n'y ait aucun débordement du côté policier. Et on peut dire qu'il y a eu un caractère providentiel dans le fait que Il était à ce moment-là Premier ministre avec un préfet de police, Maurice Grimaud, qui lui venait d'un horizon tout à fait différent, qui était mendésiste. Mais il y a eu une sorte d'alliance objective entre ces deux personnalités qui a fait que finalement il y a eu un mort au fond un peu par accident. Enfin, ces troubles qui étaient quand même très, très violents ont eu des conséquences somme toute assez limitées.
Alors, le général de Gaulle, donc, puisque les portraits sont assez remarquables dans ce recueil de textes. Alors, un homme né pour les grandes aventures.
Oui, ce sont des portraits que Georges Pompidou a rédigés à peu près un an avant sa mort, quand il a sans doute compris qu'il n'aurait peut-être pas le temps d'écrire ses mémoires comme il en avait l'intention. Il le dit dans une petite note. Il dit, au fond, j'ai préféré évoquer sous cette forme les personnalités avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler ou de et au premier rang desquels, évidemment, le général de Gaulle. Alors, il y a deux portraits du général. Il y en a un qui était un peu plus ancien, qui date des années 60. Et puis, il y a ce portrait donc, auquel vous faites allusion de 1973. Et on voit des nuances entre les deux. Et les nuances correspondent à l'altération de la relation entre les deux hommes consécutive à 1968. Parce que ça a été... On voit très, très bien que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué Georges Pompidou. Et ensuite, bon, il y a eu cette affaire Markovic et qui a encore accentué le fossé entre les deux hommes. Et on voit bien que le côté affectif de la relation auquel je faisais allusion tout à l'heure, à ce moment-là, compte beaucoup. Georges Pompidou avait vraiment l'impression qu'il avait avec le général une relation de caractère assez affectif. Et il a été très marqué, au fond, de constater que du côté du général, il n'y avait pas de réciprocité. C'est pas du tout de l'hostilité vis-à-vis de Georges Pompidou. Le général était comme ça. Il avait de l'affectivité, mais c'était une affectivité qui s'exerçait dans un cadre extrêmement familial. Et au fond, dans ses relations avec les autres, il y avait peu de place pour des sentiments de cet ordre. C'est ça qui a provoqué le choc du côté de Georges Pompidou.
L'affection n'a pas résisté à la divergence de vue, surtout.
Oui, oui, oui.
Alors, citons, bon, il n'y a aucune prise de parti dans le fait de citer des passages qui est quand même le plus critique à l'égard du général, alors que par ailleurs, les éloges sont très, très, très réels dans d'autres textes de Georges Pompidou. Il vient d'évoquer certaines des qualités du général de Gaulle, qui sont liées à sa capacité de réagir grandement à de grands événements, mais l'histoire n'apporte pas toujours les grands événements, et souvent un homme politique doit aussi réagir aux petits événements. Tout cela à l'actif, au passif, sans aucun doute, la conviction que les hommes ne sont mus que par l'intérêt. Tout ça est attribué au général de Gaulle, hein, c'est Pompidou qui parle du général de Gaulle. Et qu'il faut se garder de s'attacher à eux dès qu'ils ne vous sont pas indissolublement liés. La conviction aussi que la loi de l'homme d'État est la dureté. « Soyez dur, Pompidou », me fut dit à maintes reprises. D'où cette impression d'homme dénué de sensibilité qu'il a donnée à beaucoup. Sa conduite à l'égard de ma femme, lors de l'affaire Markovitz, va hélas dans le sens de cette interprétation, que je corrigerai en disant qu'avec l'âge, l'écocentrisme était devenu si fort qu'il étouffait toute manifestation sentimentale. Devant l'événement, je n'ai certes pas connu d'homme aussi exceptionnel. Il se trompait bien sûr parfois, mais sa faculté de prévision, de vue sur l'avenir était vraiment géniale, et sa réaction à l'événement lui-même, plus remarquable peut-être encore. Bon, merci Éric Roussel pour cet entretien.
Merci.
Merci à François Connat qui a réalisé cette émission. Merci à Cédric Châtelut qui était à la technique. Merci à Marie Dalki.
Chaque fois que Pompidou meurt, on voit le chat des empereurs, des chefs de tribus, des monarques, des sultans, le roi du Danemark. Chaque fois que Pompidou meurt, papa dit c'est très beau, malheur. D'accord, Beethoven, Scarlatti, mais rendez-nous à Nicordi. Chaque fois que Pompidou meurt, on est ému un bon quart d'heure. Il ne faut pas exagérer, on va pas le ressusciter. J'aimerais bien jeudi prochain, quand on revient de la piscine, en lui serrant très fort les mains, oser embrasser Jocelyne. Chaque fois que j'entends malheur, je pense à Pompidou qui meurt. Chaque fois que j'entends malheur, je pense à Pompidou qui meurt.
chaque fois que j'entends malheur, je pense à Pompidou qui meurt. Chaque fois.
Tout de suite, vous retrouvez Marie Richeux pour Pas la peine de crier. Et quant à moi, j'espère vous retrouver jeudi prochain. Très bonne semaine à tous.